Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
En théorie, un accord de libre-échange de cette nature-là, le but, c'est de faire bénéficier aux populations d'une plus grande diversité productive. Ça veut dire concrètement que des populations qui sont en Afrique du Sud pourront avoir des produits du Nigeria, pourront avoir des produits d'Éthiopie. Ceux qui sont au Tchad pourront bénéficier des produits qui viennent de Namibie, etc., etc. Et on appelle ça un gain de variété, de diversité. Donc c'est déjà quelque chose. A priori, sur le papier, en théorie, ça devrait pouvoir se faire. Ça veut dire que la circulation des biens produits en Afrique sera rendue plus facile parce qu'il y aura moins de tarifs à payer, moins de droits de douane à payer. Donc ça, c'est un des aspects pour le consommateur. On pense que ça peut améliorer les conditions de vie, au moins la qualité des produits. L'autre aspect, c'est que pour les producteurs et pour les producteurs, les fabricants, les industries, le fait d'avoir un marché, un vaste marché de plus d'un milliard de personnes, eh bien, ça leur donne la possibilité de faire des investissements lourds et d'avoir des rendements, ce qu'on appelle des rendements à l'échelle. C'est-à-dire que ça devient plus efficace et plus profitable pour les entreprises. Parce qu'elles ont des marchés plus grands, donc elles peuvent faire des investissements plus importants et avoir progressivement des coûts moins élevés, des prix de production moins élevés. Donc l'idée d'avoir un marché intégré, d'un point de vue purement et strictement économique et vraiment simple, c'est ça, c'est d'avoir des vastes marchés, de développer des économies d'échelle et de faire accéder les populations à une diversité de production et peut-être également plus de concurrence.
La zone de libre-échange est certes un pas important pour l'économie du continent africain, mais est-ce que sa mise en œuvre ne risquerait pas tout de même d'être compromise par le manque d'infrastructures de transport, par exemple, et la sous-industrialisation du continent?
Mais bien évidemment. Pour moi, en fait, la ZLEC, c'est un point de départ, ce n'est pas un aboutissement. Déjà, de mon point de vue, il y a des problèmes de conception. C'est-à-dire que le Nigeria a absolument raison d'insister parce que nous, les pays en développement, doivent pouvoir faire deux choses en même temps. Protéger leurs industries naissantes, donc faire un peu de protection, un peu de protectionnisme, et en même temps, d'un autre côté, s'ouvrir d'abord au niveau africain. Ce n'est pas facile. Quand on crée un marché, on crée un marché à travers des règles, mais il faut aussi des circulations. Il faudrait aussi des infrastructures de circulation. Les pays qui ont fait, comme l'Union européenne ou l'Asie, qui ont eu des accords de cette nature-là, eux avaient déjà l'avantage des niveaux des pays en développés, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des infrastructures, des routes, des ports qui fonctionnaient, etc. Nous, on a tout ça à faire en même temps, ce qui fait que ça fait quand même une difficulté supplémentaire. Donc ce n'est pas simple, c'est clair que ce n'est pas simple, et il faudra à la fois, à mon sens, continuer de travailler sur la production, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour les hommes d'affaires de voir plus grand, d'imaginer qu'ils ont un marché qui est d'autant plus élevé, donc il faudrait sortir de seulement l'import-export, mais travailler davantage la production, et en même temps, les services publics doivent travailler sur l'offre d'infrastructures qui fait qu'un marché est réel. Un marché, il n'est pas que théorique.
En principe, les États membres de la ZLEC doivent libéraliser au moins 80% de leur exportation pendant les échanges. Quel sera le sort réservé au reste des produits qui ne seront pas concernés par cette libéralisation?
Quelqu'un qui ramène ses produits de N'Djamena, il faut déjà que ce soit des produits africains, en tout cas des produits tchadiens, mais en tout cas des produits africains, pour qu'ils soient concernés par le libre-échange. Parce que sinon, on aura des passagers clandestins. C'est-à-dire qu'il y aura des pays qui ne sont pas africains, qui pourront faire passer leurs produits en franchise de douane et qui vont faire circuler leurs produits au détriment des produits africains.
Y a-t-il des critères? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il s'agit là d'un produit africain?
Il y a ce qu'on appelle les règles d'origine, le made in. Et puis, il y a des techniques pour faire la traçabilité des produits, pour savoir d'où viennent les produits, il y a des contrôles, etc., pour être sûr que ce sont des produits africains et qu'il y a un contenu africain. Et j'espère, je compte beaucoup sur la position du Nigeria, parce que c'est déjà ce que fait le Nigeria dans son propre pays, vis-à-vis des importations. Et ce serait important que l'ensemble des pays africains tiennent à cette mesure-là. Sinon, on aura des produits qui vont circuler dans toute l'Afrique, mais qui ne seront pas des produits africains. Donc déjà, cette restriction est importante. L'autre restriction, c'est que les pays auront droit à un certain pourcentage de produits qui seront exclus du libre-échange. C'est-à-dire que les pays peuvent avoir des industries, tantôt stratégiques ou des industries en tout cas importantes, qu'ils souhaitent soustraire d'une concurrence qui pourrait les détruire trop vite.
Donc pour être terre à terre, la Côte d'Ivoire et le Ghana par exemple peuvent exclure de cette libéralisation le café et le cacao, c'est ça ?
Ils pourraient exclure le cacao et le café si ça va dans leurs intérêts, mais il y a un pourcentage, ça peut pas être des produits qui font 50% de votre commerce extérieur, par exemple. Parce que normalement, c'est autour de 80% de vos produits qui doivent être libéralisés dans les 5-10 années. Voyez. Donc, ce que vous allez exclure de l'échange, ça ne peut pas être ce qui représente le plus.
Mmh. Et là aussi, est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce qu'il y a des critères ? Ouais. Est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce qu'il y a des critères qui ont été mis en place justement pour
Des critères qui ont été mis en place. D'abord, il y a un critère quantitatif qui dit il faudra arriver à libéraliser l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais c'est autour de 80% de vos échanges. Ça veut dire qu'il vous restera quand même 20% que vous pourrez sortir de l'accord de libre-échange.
Et là, les États sont libres de choisir les produits qu'ils veulent, non ? Par exemple, la Côte d'Ivoire avec le cacao.
Voilà. Oui, normalement, oui, mais il faut vérifier. Et puis, ce n'est pas encore. Je pense que tout n'est pas encore complètement arrêté parce que, par exemple, le Nigeria a demandé des études, a demandé des vérifications pour être sûr des avantages et des inconvénients, notamment. Du point de vue de la protection des économies locales. Et donc, moi, je pense que ça va encore évoluer de ce point de vue, et c'est une bonne chose. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra voir avec l'institution GLEC, parce que même si les pays pourraient le faire, ils ne pourraient pas, par exemple, faire aujourd'hui un pays, un produit, et le lendemain, un autre produit. Sinon ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, le fait que ce soit 80% par exemple de produits à libéraliser fait que ça ne pourra pas être une matière première qui fait 40 ou 50 ou 60% des exportations du pays. Ça restera dans une certaine limite.
Okay.
Donc c'est encadré. D'autre part, il faut voir aussi que il n'y a pas un énorme intérêt pour les pays d'exporter des matières premières vers un autre pays africain qui produit les mêmes matières premières. Mmh. C'est-à-dire que donc la Côte d'Ivoire, elle, son enjeu, comme le Ghana, c'est d'exporter son cacao ou leur cacao en Europe. Et en gros, là où il y a des transformateurs. Et ce n'est pas en Afrique qu'il y a des transformateurs. Donc je pense que ce cas de figure. C'est peut-être pas celui qui posera le plus de problèmes. Le cas de figure qui poserait le plus de problèmes, c'est lorsque des produits, peut-être déjà manufacturés ou transformés, pourraient concurrencer d'autres au niveau africain.
Et le Nigeria était sceptique hein, dès le départ, mais là, apparemment, il a donné son accord de principe. Est-ce que le pays a reçu des gages ou des garanties ?
Alors, le pays a fait, vous savez, le Nigeria est dans une position particulière. Le Nigeria fait presque 200 millions d'habitants. C'est le pays leader de la CDAO. C'est la plus grande économie africaine en termes de PIB. Donc, c'est vraiment un pays qui a lui aussi intérêt dans un accord de libre-échange. Parce que ses producteurs, le Nigeria, il a des industries, un début de tissu industriel, le ciment, un peu du textile, etc., etc. Et donc, les hommes d'affaires nigériens ont intérêt à avoir un marché plus vaste que le Nigeria. Et cette tension est perceptible même au Nigeria parce que une partie du patronat est quand même pour cet accord. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent y gagner d'avoir un marché plus vaste. Donc, les assurances que le Nigeria demande, c'est de dire... Nous voulons protéger notre économie. Nous avons eu le problème avec la libéralisation du textile avec l'OMC, parce que le Nigeria a une industrie textile qui a été totalement dévastée lors de la libéralisation du textile, parce que les textiles des pays beaucoup plus compétitifs, que ce soit d'Asie ou même d'Europe du Nord, eh bien, on pénétrait dans l'espace, dans les marchés nigériens, et ont mis l'industrie textile nigériane à mal. Et donc, ils ont un peu ce traumatisme de leur industrie textile qui a beaucoup souffert des mesures de libéralisation de l'OMC, raison pour laquelle ils disent que cette fois-ci, il ne se passera pas la même chose. On va tout faire pour d'abord protéger notre économie et nous assurer qu'on pourra construire des règles précises sur l'origine des produits, ce qu'ils appellent le local context, African content. C'est de dire, on veut bien que les marchandises circulent, mais il faudrait que ce soient des marchandises qui sont produites en Afrique, avec un contenu africain important. Sinon, on risque de se faire concurrencer par des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont déjà compétitifs sur d'autres marchés, et nous allons perdre complètement nos industries qui sont naissantes. C'est ça un peu la problématique nigérienne, et je pense que c'est une problématique absolument de bon sens, dont devraient s'inspirer les autres pays africains.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les garde-fous déjà mis en place pour justement favoriser l'exécution de l'ASLEC sur le continent africain?
Ça, je ne peux pas vous le dire dans le détail, mais en fait, tous les accords de libre-échange fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que vous avez, quand vous faites les passages, c'est des passages en douane, quand vous passez en douane, il y a des normes, il y a des documents que vous devez présenter sur l'origine des produits. Et on peut chercher à vérifier, faire une trace de l'origine des produits. Chaque fois que vous faites un passage en douane, il y a une liasse documentaire que vous présentez. Et dans les documents, en fait, il y a les règles tenant à l'origine des produits. Et donc, on peut vérifier, déjà, on peut ouvrir les lots, hein, vous avez des cartons, etc. La douane peut, dans certaines conditions, vérifier de quel produit il s'agit et vérifier que l'origine des produits est conforme à celle qui est annoncée dans les documents. Donc ça, c'est un travail qui se fait au niveau des douanes, mais c'est aussi un travail de réglementation. Il faudra bien préciser tous les critères qui seront pris en compte, mais c'est un travail qui se fait au niveau des douanes.
Mais comment faire pour pallier le manque d'infrastructures de transport dans beaucoup de pays africains?
Eh bien, les infrastructures de transport, ça, c'est des politiques à la fois nationales, mais aussi c'est des politiques régionales. On sait qu'on a accusé beaucoup de retard dans le financement des infrastructures routières, de transport, etc. Mais il va falloir que les États le fassent, parce que ce ne serait pas logique de dire on veut faire circuler la marchandise, les marchandises et la production africaine sur tout le continent, et dans le même temps, être en déficit infrastructurel. C'est un des aspects aussi que la coopération chinoise a commencé à résoudre en partie, puisque la coopération chinoise a financé quand même un certain nombre d'infrastructures en Éthiopie et ailleurs. Et on a vu que on a quand même avancé de ce point de vue. Mais je pense que l'opportunité de l'ASLEC, c'est aussi l'opportunité de relancer ces projets de construction d'infrastructures au niveau continental. Alors ça peut se faire d'abord au niveau régional, mais c'est une priorité. C'est une priorité. On ne peut pas avoir de marché s'il n'y a pas des infrastructures qui font fonctionner les marchés. Il y a également tout ce qui touche à l'information économique, il y a tout ce qui touche d'une façon plus générale à la fluidité des moyens de paiement, etc. etc.
Beaucoup de pays africains sont sous-industrialisés. Comment est-ce que l'ASLEC peut marcher, peut être effectif comme ça?
Je considère personnellement que l'ASNEC n'est pas une solution, ça ne va pas apporter toutes les solutions. Pour moi, c'est un début. Ce n'est pas vraiment une fin. C'est quelque chose qui peut apporter de la dynamique. C'est-à-dire que lorsque vous avez des hommes d'affaires, lorsque vous avez des États qui comprennent l'intérêt qu'il va y avoir à cibler de nouveaux marchés, des marchés plus vastes, ils vont faire les investissements nécessaires pour arriver à cibler ces marchés. Et parmi ces investissements, il y aura des investissements de capacité, produire davantage, mais les États comprendront aussi qu'ils devront accompagner ces productions par des infrastructures. Donc je pense que l'existence d'un vaste espace commun va logiquement créer de nouvelles anticipations, c'est-à-dire que les agents économiques et les acteurs publics vont désormais raisonner différemment, vont désormais se dire nous avons un marché, nous avons de nouveaux marchés à conquérir, nous avons notre production à faire circuler du nord vers le sud, vers d'autres pays, et donc la nécessité pour nous, parce que nous allons y gagner, nos entreprises vont y gagner, on pourra avoir de la création d'emplois, on pourra avoir davantage de recettes fiscales, même si on impose moins, mais les entreprises se portant mieux, on va avoir davantage de rentrées, on va avoir des économies plus diversifiées, ça c'est extrêmement important. essentiellement reposer sur des matières premières, ça ne suffit pas. Les cours des matières premières sont très volatiles et la tenue de nos monnaies est affaiblie par cette volatilité. Alors que si on a en plus des matières premières, des biens manufacturés, on a des économies plus diversifiées et plus solides et plus stables. Je crois que ça, on commence à le comprendre et logiquement devrait suivre des investissements en termes d'infrastructures. On a quand même aujourd'hui des banques comme la BAD qui ont un discours assez efficace par rapport aux infrastructures. On a créé des nouveaux indices pour comprendre l'évolution des infrastructures et comment stimuler des nouveaux partenariats autour des infrastructures. Je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Donc la ZLEC en question ne sera pas nécessairement au moins un aboutissement. C'est le début d'un processus dynamique, le début d'un processus qui va amener les acteurs à changer leurs anticipations, ne plus raisonner simplement en import-export, mais raisonner en marché africain. Et quand on raisonne en marché africain, on comprend qu'on ne va pas vendre du pétrole brut à un pays qui a du pétrole brut. On va lui vendre de l'agriculture. Aujourd'hui, le riz nigérien en concurrence, le riz thaïlandais sur son marché, hein, qu'il a d'ailleurs interdit progressivement, eh bien, ils pourront vendre leurs produits vers d'autres directions. Et je pense que c'est en ce sens-là aussi que ce marché est important, ce marché ouvert est important. Personnellement, je plébiscite la dynamique du processus, je plébiscite la dynamique de l'intégration africaine davantage que la dynamique du libre-échange. Ce qui est important, c'est pas le libre-échange, c'est l'intégration africaine. Et ce qui va être la deuxième étape, à mon avis, ça va être de mettre des règles, justement, de transformation économique. Pour le moment, on n'a pas de vraies règles de transformation économique qui soient contraignantes un tant soit peu. C'est-à-dire qui amènent les entreprises, qui amènent les États à davantage miser sur l'industrialisation, etc. Alors, si on reste dans ces espèces d'accords de libre-échange, dans ces accords, ces zones monétaires, où ce qui prédomine, c'est les critères macroéconomiques, de la stabilité, ben, on n'aura pas de transformation économique. On a des outils, aujourd'hui, qui se présentent, mais qu'on a construits, souvent de façon un peu mimétique, en disant, bon, il existe des zones de libre-échange ailleurs, on va faire pareil. Il va falloir mettre un contenu africain dans les règles qui vont faire fonctionner ces nouveaux dispositifs. Mais l'idée de rentrer dans un processus d'intégration économique, cette idée-là est positive.